On ne veut pas d'aéroport où il n'y a pas de négociation, il n'y a rien. Moi, je suis un peu tout seul pour passer ça, et puis, mais c'est de la merde, mais c'est vraiment se foutre de la gueule du monde, quoi. C'est pas ça qu'a fait reculer l'aéroport jusqu'à maintenant, hein. C'est les gars qui se sont fait taper sur la gueule qui ont fait reculer, c'est les gens qui sont installés, ceux qui n'ont pas voulu partir. C'est pas les négociations, jusqu'à présent, les négociations sont toujours fait entuber. Tout le temps, on s'est fait entuber. Ben non, pas moi, parce que je veux pas de négociations.
Moi, ce qui m'inquiète sur le vivre ensemble, c'est que n'importe qui débarque, et puis n'importe qui dit, ben, ça doit se passer comme ça.
Pour moi, c'est pas la lutte des paysans ou la lutte des squatteurs. On est tous une part de cette lutte.
Les pieds sur terre, c'est ce film tourné dans le village de Limimbou, au cœur de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. On y croise autochtones et autonomes immigrés qui, s'ils se rejoignent dans la lutte, divergent dans leurs projets. Au programme de ce reportage, un micro-trottoir anonyme, une interview de Paul Masson, organisateur de cette soirée, propos recueillis par Boris de Radio PFM, et le débat qui a fait suite à la projection du film.
Le film, comment vous l'avez trouvé ?
Moi, génial, génial, et très intimiste, ouais, très touchant, et puis le débat aussi, après, par la suite.
Est-ce que vous connaissiez un petit peu ce qui se passait à Notre-Dame-des-Landes, et est-ce que vous avez appris des choses, ou est-ce que vous connaissez déjà un peu le terrain ?
Oui, je connaissais un petit peu de la thématique, de quoi il s'agissait, mais là, bon, c'était une approche qui était totalement différente, beaucoup plus sur l'humain, et beaucoup très intimiste, et ça m'a très bouleversant, ouais. Donc, en dehors des sentiers battus et de ce qu'on pouvait nous connaître par l'intermédiaire de la presse et des idées qu'on s'était faites dessus, quoi. Mais je m'y retrouve bien, ouais, je m'y retrouve bien dans ce reportage documentaire, ouais.
Qu'est-ce que vous avez pensé du débat finalement après ?
Bah, plutôt intéressant, parce qu'on a bien vu qu'il y avait des réflexions évidemment diverses et bon, qui allaient dans le... Oui, ça représentait bien moi ce que j'avais en plus ressenti. Non, c'est un film très intéressant, mais qui est évidemment comme dans un périmètre très, très restreint. Alors, ce qui permet d'approfondir aussi, il y a des personnages formidables. Mais bon, je sais que dans cette ZAD de Notre-Dame-des-Landes, il y a eu des expériences très, très diverses.
Hein, vous y êtes allé vous-même ?
Non, c'est ce que j'en ai. Enfin, j'ai cru comprendre dans des reportages à la télé ou des débats également que j'ai pu voir sur la ZAD, qui avait effectivement une revendication sur une sorte de propriété, enfin d'utilisation des terres. On ne peut pas parler de propriété collective, mais il y a un peu ça dans les quelque part, quoi. D'accord. Et je voyais bien les réactions du gouvernement. Il y avait une représentante du gouvernement qui freinait, évidemment, et qui parlait, elle, de propriété. Donc il y a ce débat, quoi, qui est sous-jacent et qui va apparaître là, dans les semaines, les mois qui viennent, quoi. Ça va être crucial. Ah ouais, donc c'est intéressant.
Paul Masson, d'abord peut-être parler un peu de ce film, le choix du film. Alors évidemment c'est d'actualité, mais est-ce qu'il avait été déjà choisi avant la prise de décision du gouvernement ou vous l'avez choisi après ?
Je pense qu'il était dans les films que je pensais avant la décision du gouvernement. Mais quand la décision a été prise en sachant l'objet du film qui était comment les gens s'étaient organisés, J'ai pas hésité, je me suis pas dit c'est périmé, puisque l'objet du film n'est pas comment qu'on a gagné Notre-Dame-des-Landes, mais comment on s'est organisé pendant ce temps-là. C'est-à-dire l'alternative dans le modèle d'organisation démocratique.
D'accord. Le débat qui s'en est suivi, vous en avez pensé quoi ?
Je sais pas, faudra que les gens, en écoutant le débat, ils essaient de se faire une idée. Moi, je l'ai trouvé assez riche. Assez intéressant, parce qu'il y a beaucoup de questions qui ont été posées, les questions clés, les questions de la propriété, les questions de comment on va continuer après, qu'est-ce qu'il y a changé qui fait que ça ne peut plus être comme avant. Les questions clés ont été posées et il y a eu énormément de témoignages de comment j'ai reçu le film. Qu'est-ce que ça m'a apporté? Et ça, j'ai trouvé... Moi, j'ai trouvé riche ce
absolument.
Alors, si on se met à la place de quelqu'un qui découvre justement ce qui se passe à Notre-Dame-des-Landes, même s'il en a entendu parler un peu à la télé, mais qui ne savait pas vraiment comment ça se passait là-bas, on a l'impression qu'il y a un côté surréaliste, d'une sorte d'un monde dans un monde, en fait. Il n'y a pas beaucoup de passages de gens qui viennent voir ce qui se passe. C'est vraiment, on a l'impression que c'est un cercle un peu fermé de jeunes qui sont là, qui viennent soi-disant squatter, entre guillemets, mais qui aussi posent d'autres questions et qui sont militants. Et en même temps, les paysans qui vivent juste autour, mais on dirait qu'il n'y a rien d'autre après.
Alors, effectivement, mais on a vu aussi qu'il y a des foules qui viennent à certains moments à l'occasion des événements. Effectivement, on a l'impression d'un monde fermé. Avec le témoignage de cette jeune femme au chat, puisqu'on ne sait pas comment elle s'appelle, j'avais presque l'impression d'un monde à l'envers, où on avait une autre organisation sociale, et puis une dame qui vit dans la société conventionnelle, qui se trouve ici et qui se dit « mais je suis la pobie égarée ». Et alors qu'habituellement, c'est les gens qui viendraient à Notre-Dame-des-Landes qu'on présenterait comme la brebis égarée. J'ai eu l'impression d'un monde à l'envers et c'était intéressant.
Elle a envie d'y aller, mais elle n'y va pas.
Effectivement, oui. Elle ne sait pas comment franchir le pas. Et surtout, elle se dit, il y a des choses à lâcher qu'il faudrait que je lâche. Mais je n'arrive pas à les lâcher. Moi, c'est plus ça. Parce que franchir le pas, à la limite, je passerai la rue, j'irai les voir. C'est faisable. Mais si je veux y aller avec eux, ben, y a des choses à lâcher. Après avoir vu ce film, qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que vous avez envie de dire? Qu'est-ce que vous voulez partager?
Merci. Moi, ce que m'a procuré ce film, c'est un immense bonheur. Un immense espoir, parce que je dois vous avouer que tous les jours, j'ai des motifs de découragement. Et là, j'ai vu une humanité en œuvre avec des gens tellement différents et qui se posent les vraies questions. Et la réflexion de l'agricultrice à la fin, la dame qui avait les cheveux très courts, là, qui dit « mais ces jeunes, on ne peut pas les abandonner ». Et ça, pour moi, c'est ça vaut tout l'or du monde. Et je ne connaissais pas vraiment tous les tenants et aboutissants, bien que, bien sûr, je pense que la plupart d'entre nous étaient contre ce projet pour diverses raisons. J'ai vraiment compris ce qui s'est vécu là-bas. Et rien que pour ça, je voudrais remercier les cinéastes. Je pense qu'ils ont su traduire l'intraduisible.
Ok, donc un message d'espoir.
Alors, moi, j'ai trouvé que c'était effectivement un film superbe sur un endroit qui est très beau. Bon, moi, je l'ai découvert samedi en y allant, en ramenant des arbres, puisque cette fois-ci, c'était plus Semtazad, c'était Enracine Tazad. Donc, ils demandaient de ramener des arbres. On était beaucoup à en avoir ramené. C'est vraiment un endroit, effectivement, où on croise des gens très différents. Alors, je partage complètement ce qui vient d'être dit derrière. Et j'ai dit, je vais le moduler. Armel, à côté, ne me dit pas trop. Mais parce que voilà, une des questions qui traverse ce film, c'est comment ça va se passer après, puisque le seul ciment qu'avaient quand même au départ tous ces gens, extrêmement différents, c'était la lutte contre l'aéroport. Voilà. L'aéroport s'éloignant, comment ça va se passer derrière? Alors effectivement, personne n'en sait rien, mais on sait déjà quand même qu'il existe des tensions qui se font jour, qui se faisaient déjà jour avant, qui s'exacerbent, on va dire, en ce moment. Autour de deux points principaux. C'était le premier, c'était la libération de la route des chicanes, hein, qu'on a pu suivre un peu dans les médias, qui a été libérée, mais loin d'être faite de façon consensuelle. Hein, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de militants qui ne souhaitaient pas qu'elle soit libérée, parce qu'effectivement, l'État n'a donné aucune garantie. Si ce n'est une parole, c'est quand même pas la parole la plus crédible qui existe sur le champ politique aujourd'hui, la parole de l'État. Tout au moins, elle peut être contestée. On a des exemples. Et puis le deuxième, qui est peut-être plus dur à mon avis, et qui fait qu'il va falloir que tous ceux qui s'intéressent à la ZAD suivent de près, tout en laissant bien sûr les zadistes débattre, puisque c'est leur débat, mais je pense qu'il faut qu'on s'y intéresse, parce qu'il y a d'autres luttes en cours, à Bure ou ailleurs, c'est comment ça va se passer maintenant, puisque qui est en jeu aujourd'hui, c'est le devenir des terres. Hein. Quelqu'un le disait très très bien. Et moi, en discutant samedi avec un occupant qui était là depuis 2012, hein, qui est quelqu'un qui avait quitté un boulot plutôt rémunérateur et qui s'était installé, on a eu un échange très long avec, une demi-heure, trois quarts d'heure, c'était passionnant. Et puis au bout de trois quarts d'heure, on a été quand même quelques-uns à être un peu glacés par ce qu'il nous a dit. Quand il nous a dit, ouais, mais de toute façon, les improductifs, il faudra bien qu'ils partent. Bon, moi, je suis militant anti-productiviste, je m'en cache pas, hein, j'ai toujours été. C'est vrai que j'ai été heurté et que je lui ai demandé comment il définissait les gens qui n'étaient pas productifs. C'était quoi le productivisme à la ZAD? Alors voilà, donc ce n'est pas du tout négatif, hein, mais l'inquiétude quand même qu'on peut avoir, c'est comment ça va se gérer derrière. Beauvais a fait des propositions, il y en a d'autres qui en ont, mais qui est-ce qui est légitime à occuper la ZAD demain? Est-ce qu'effectivement, on ne va pas voir ces jeunes qui, pour certains, sont venus donner un coup de main et plutôt le coup de poing? Mais s'ils n'avaient pas été là, la ZAD, on ne serait peut-être pas où elle est aujourd'hui. Donc les remercier en leur disant « aujourd'hui, vous n'êtes pas productif » ou « aujourd'hui, vous ne rentrez pas dans le moule de ce que serait la ZAD demain », je trouverais ça quand même un peu dommage. Quoi. Voilà. Et puis une dernière chose, très rapide, c'est une chose que ne montre pas le film, assez, enfin, qui pourrait quand même faire l'objet de discussions et de débats, c'est est-ce qu'on ne devrait pas déjà être en train de préparer une ZAD à Nantes, puisque pour beaucoup d'entre nous, c'était pas seulement pas d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes pour préserver une zone aussi magnifique soit-elle, mais est-il nécessaire d'agrandir Nantes-Atlantique sur des prévisions d'augmentation exponentielle du transport aérien, alors qu'on a des chiffres qui pourraient nous laisser penser que ça va pas vraiment être ça. Donc voilà, il y a un autre débat qui pourrait peut-être suivre plus tard.
D'accord, oui, toi, tu poses plus la question de comment va se jouer la suite, liée entre autres à l'utilisation des terres et les forces qui sont sur le terrain. Ok. En sachant qu'il y avait la situation au départ où les gens n'avaient que l'élément unificateur de la lutte contre l'aéroport, mais qu'à la fin, ils n'ont pas que ça. Ils ont aussi toute l'expérience qu'ils ont menée ensemble, quoi. La situation n'est plus la même pour eux qu'au départ. Autre réflexion, réaction?
J'avais assisté à une réunion où il disait que s'il n'y avait pas d'aéroport, la SAFER s'occuperait des terres. Donc là, on a entendu la dame à cheveux courts là, qui disait que certains des anciens cultivateurs, agriculteurs qui avaient accepté l'argent voulaient revenir. Et là, je crois qu'il va devoir y avoir une autre lutte pour que justement la SAFER ne s'approprie pas les terres et les distribue un peu à n'importe qui, alors qu'il y a des jeunes qui cultivent. Et, hein, voilà.
Oui, c'est un des éléments de la lutte, du rapport de force qui va se jouer maintenant.
Le problème qui est posé maintenant, c'est le problème de la propriété privée, hein, et en plus de la valeur productive, qui est productif. C'est celui qui travaille, oui, mais s'il y a la terre, il ne peut pas travailler. Donc, propriété privée. Et j'ai vu que sur... en fait, c'est un ensemble d'individualisme au niveau du travail, puisqu'il n'y a pas de mise... La mise en moyen des... Enfin, les moyens de production ne sont pas mis en collectivité. Donc, on reste dans une sorte de solidarité, mais avec des individualités juxtaposées. Et donc, comment la mayonnaise va partir après, quand effectivement ceux qui ont quitté la terre vont vouloir revenir, ceux qui sont dessus travaillent réellement et la terre leur appartient, parce qu'à partir du moment qu'on travaille dessus, peut-être que c'est peut-être une propriété, une forme de propriété, quoi. Donc enfin, c'est le problème de la propriété privée, quoi, qui est posé, l'éternel problème depuis la Révolution française. Hein.
Effectivement, se pose le problème de la propriété. Mais par rapport à propriété collective ou propriété individuelle, il y a peut-être des nouvelles pistes qui vont naître de la nouvelle situation, quoi.
Moi, j'ai envie de dire, c'est qu'au-delà du thème du noyau dur, enfin du thème de la lutte, hein, qui est là, un aéroport, on pourrait retrouver ce type de démarche qui cherche à reconstruire une autre façon de vivre ensemble, avec cette notion d'autarcie, Hein, c'est-à-dire finalement être capable de faire sa propre nourriture, de se débrouiller pour vivre, hein, sur les éléments essentiels, hein, manger, boire, avoir un toit, on voit bien. Hein, c'est le système D, hein, à la mode squat peut-être, hein, parce qu'ils le disent. Hein, mais finalement, c'est une démarche qui vise à revenir à l'essentiel. Et ça, je pense que c'est assez magique. Et effectivement, ils l'ont dit à un moment donné, c'est quelque part, c'est un creuset merveilleux qui devrait être utilisé pour voir comment on peut imaginer, réinventer une autre façon de vivre en respectant la nature, en respectant l'autre aussi. Hein. Il y a cette notion de respect des uns les autres, même au départ, s'il y a une peur de l'autre, hein, l'autre qui est quand même très différent, ils l'ont dit, façon de s'habiller, façon de se comporter, les squatteurs, là, ils les appellent comme ça, par rapport aux gens qui étaient déjà intégrés dans la société. Hein. Mais c'est quand même assez merveilleux. Et de mon point de vue, le gouvernement qui dit non, je pense que le projet tel qu'il était, avec cette lutte qui dure depuis très longtemps et qui s'est finalement généralisée en termes de connaissances, a été médiatisée, je pense qu'on a du mal à imaginer que le gouvernement accepte, hein, aille dire on va le faire quand même. Quoi. Donc le non, il était déjà latent. On le sent déjà, parce que ça a été tourné en 2015. On le sentait déjà dans les paroles des gens, hein, que le projet, eux, ils étaient sûrs qu'ils n'allaient pas, parce qu'ils étaient déterminés. Hein. Mais malgré tout, de mon point de vue, c'est que ce qui est sans doute très important pour le gouvernement, dans sa position, hein, c'est que l'expérience de vie, de recherche de vivre autrement, avec toutes les notions qu'on a évoquées avant, ils veulent absolument pas que ça se fasse. Ils vont essayer de l'étouffer. Et ça, je pense que c'est stratégique pour eux. On va voir comment ils vont s'y prendre. Mais je pense qu'il a la lutte, effectivement, continue pour les aider et tout faire pour que cette expérience-là vive là-bas et y aille bien plus loin, peut-être, et soit peut-être un modèle pour nous faire tous réfléchir sur le comment vivre en respectant la Terre, l'autre, l'humanité, parce que les enjeux sont quand même colossaux, ce qui est devant nous. On a un risque fort sur la planète. Il n'y a pas que le climat, il y a un tas de choses, et également sur l'humain.
C'est sûr qu'une expérience de changement, le système n'a pas tellement intérêt à ce qu'elle se développe et se généralise. Ça a été la fin de l'IP. Ça a été la fin de l'IP. Il fallait casser l'IP parce qu'on avait des salariés qui s'étaient appropriés leur usine. Et ça se reproduira ce jour-là, oui. Moi, une chose qui m'a... Donc je prends la parole comme... comme tout le monde, là, qui m'a frappé, c'est un monsieur qui dit les jeunes qui n'avaient pas leur place dans la société, au lieu de subir cette situation, ils s'en saisissent pour faire quelque chose. Et effectivement, ça, c'est à la fois c'est espoir et ils ne vont pas prendre les modèles existants, parce que ne serait-ce qu'ils n'en ont pas, y compris l'IP. Le Larzac, il y a un jeune qui remet en cause. Qu'est-ce qu'il vient de nous raconter là ? On fait autre chose. Et il y a des choses à inventer aussi. Oui. D'autres réflexions ? Ceux qui n'ont rien dit, c'est qu'ils n'ont rien à dire, et c'est légitime. Mais s'ils veulent dire quelque chose, il vaut mieux avant que ce soit avant la fin.
Non, simplement ajouter, on a parlé de l'institution, du système. Il est bien évident que... le système politique dans lequel on vit actuellement ne va pas porter ce genre de réflexion et de nouveaux projets. Je vais presque dire que c'est normal. Il y a peut-être des relais à prendre au niveau local aussi pour voir comment va évoluer cette situation. Pour, je ne sais pas comment dire, on a parlé de remercier tout à l'heure. Je ne sais pas si c'est en ces termes-là. Moi, ce qui m'a beaucoup touché et beaucoup plu, c'est que on est tenu en haleine tout le temps parce que tous les propos qui sont tenus sont des propos vrais. Et toutes les paroles sont belles et les personnes sont belles aussi. Et les paroles sont défendables. On ne se rappelle plus des noms, et d'ailleurs on les a pas su. Mais on dit toujours la demoiselle avec ses chats. Enfin, moi, elle m'a touché énormément. Parce que chacun a le droit d'avoir la... Elle dit, ça fait presque mal au cœur, mais on est peut-être beaucoup dans la salle à se dire, moi j'ai jamais osé franchir ce pas, et puis il y a la route qui me sépare, mais je le fais pas. Après j'ai fait un choix, c'est-à-dire que chacun est finalement dans sa légitimité. Comment redistribuer cette pensée humaine qui est magnifique. Je trouve que d'ailleurs que le film devrait être plus daté parce que ça va être un document extraordinaire, aussi bien en 2018 que dans 10 ans. J'espère qu'il fera des jolies pousses humaines, mais que c'est un document extraordinaire, quoi. C'est tout.
Je me pose une petite question, parce qu'on parlait, on parle du respect de la terre, et à un moment donné, il y a une agricultrice, justement avec les cheveux courts, qui dit, mais on ne peut pas passer en bio, et j'ai expliqué pourquoi. Donc visiblement, vont cohabiter des agriculteurs conventionnels avec des jeunes qui veulent absolument travailler en bio. Donc là, je ne sais pas si ça a évolué entre-temps ou pas. Je me pose la question.
Oui.
Oui, bien sûr, j'adhère à tout ce qui a été dit précédemment et toutes les questions qui ont été soulevées. Moi, pour parler beaucoup plus simplement, j'ai été sensible à la beauté formelle du film. Les couleurs, l'herbe vive, fraîche, etc. Et tout particulièrement à la beauté des animaux, à ce calme qui se dégage, les pelages des bœufs, les moutons. J'ai trouvé que c'était vraiment des moments tout à fait superbes. Puis j'ai été sensible aussi à la présence de ce petit bonhomme qui regarde autour de lui, qui n'a pas d'écran et qui apprend des choses merveilleuses qui vont enrichir toute sa vie. J'ai trouvé que c'était vraiment, vraiment très beau.
Soit d'autres réflexions, soit d'autres témoignages de comment c'est perçu.
Oui, moi aussi, je suis en accord sur, bien sûr, sur ce qui vient d'être dit, les interrogations, enfin et ce petit bonhomme, effectivement, qui c'est l'avenir, quoi. On s'interroge. Hein, il est tout petit, il est heureux. Alors, quel sera son avenir? Ses parents savent pas trop non plus. Enfin, ils ont des envies, mais bon, voilà, on pourrait philosopher beaucoup là-dessus. Alors moi, ça m'a rappelé aussi la musique, les jeunes. Ça m'a rappelé mes années dans les années 70, évidemment. On peut faire un parallèle avec ce qu'ont vécu. Alors, je ne peux pas parler des hippies, mais bon, des gens qui ont tenté des expériences un petit peu partout en France. Bon, voilà, c'est assez. Alors, on peut se dire qu'effectivement, ça. Ça existe depuis longtemps et il y a toujours la société, enfin les gens qui décident, effectivement, posent des blocages hein, terribles sur de belles expériences qui j'espère, enfin, vont pouvoir se développer. Mais effectivement, là, on n'a pas des premiers de cordée hein, face à nous, c'est clair. Là, on est dans une autre démarche. Humaniste et altruiste. Enfin bon, voilà, j'espère que ça pourra vraiment exister davantage. Et voilà.
Moi, je dirais peut-être qu'on a des premiers de cordée. D'autres choses qui ne se présentent pas forcément comme ça. Mais... Oui, pas dans le sens macronien, non. D'autres réflexions?
Juste un petit clin d'œil quand le petit. L'éleveur, son lapsus en disant, quand ils sont en train de préparer le cochon, à un moment, il dit ils sont sympas, ils sont super, ils mettent les mains à la pâte, les ouvriers, puis après, il se reprend et dit les camarades.
Oui.
Ouais, je peux revenir sur tout ce qui a été dit, oui, c'est un magnifique film. C'est juste j'ai eu un flash comme ça, j'imaginais ce qui m'a vraiment impressionné, c'est le discours de José Bové, et puis quand on lui fait péter le compteur. Et puis le gars derrière qui prend la parole en disant oui, bon, bah, lui il a fait des choix, Larzac, etc. Et là j'ai eu un flash en me disant, j'imagine dans 50 ans, le même type qui prend la parole dans un meeting de Zadis et qui se fait couper le. Voilà. Et en fait, la question, c'est sur l'institutionnalisation, c'est comment on répète pas en permanence comme ça les luttes de pouvoir, l'institutionnalisation. Et un enjeu, j'ai pas la réponse, hein, mais voilà, peut-être que le gars qui parlait, c'est peut-être José Bové de demain. Enfin, tu vois, c'est un peu flippant. Il y a un côté un peu ferme des animaux, tu vois. Enfin, voilà. Ça m'a fait penser à ça, parce qu'il y a deux mondes, enfin, il y a plusieurs mondes qui cohabitent là, et vraiment, je trouve ça une espèce d'ironie de l'histoire où Bové s'est coupé comme ça, et un autre derrière en disant, mais moi je ne vais pas devenir comme lui, mais j'aimerais bien l'entendre dans 50 ans. Quoi.
D'autres réflexions, d'autres réactions?
On peut se demander comment donner une suite à tout ça, pas forcément par nous-mêmes, mais aussi par nous-mêmes. On peut en parler, parce que ce film-là mériterait d'être vu davantage que, évidemment, mais toujours, c'est toujours un peu la même démarche, mais on peut être messager pour pouvoir donner envie à d'autres personnes de le voir, d'acheter peut-être le DVD, etc., puis de le montrer à d'autres. Mais on peut quand même imaginer que des intellectuels, enfin des gens qui travaillent un peu sur ces thèmes-là, portent la voix bien plus haut que ce qu'on peut faire ce soir. Donc, mais ça peut être une façon de le faire pour dire qu'il faut absolument aller là-bas et que ce ne soit pas que des militants, bien sûr, pour les bonnes causes. Il y avait l'aéroport à faire stopper, évidemment, mais pour y aller pour la construction positive de quelque chose de nouveau. Qui revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est à ses fondamentaux de la vie, à l'image du petit enfant qui a été dit tout à l'heure par une personne dans la salle. Et je pense que ça, ça mériterait d'interpeller et de les faire bouger, de leur botter un peu le cul et de dire allez-y, bougez un peu votre cul et allez voir ce qui se fait là-bas, vous qui êtes étudiant en sociologie, bref, tous ces thèmes-là. Je ne suis pas expert dans ces domaines-là, mais ça vaut vraiment le coup et de le faire savoir. Et c'est peut-être tout ça qui ferait que la parole de beaucoup de monde, des intellectuels en France, pourrait faire plier et empêcher le gouvernement de stopper, de raser cette expérience-là.
Ok.
Par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure, et Bové qui se fait couper le son, effectivement, bon, faut quand même être, enfin, tout le monde ne finit pas dans les institutions, quand même. Heureusement, il y a quand même des militants qui continuent et qui ne s'institutionnalisent pas. Complètement, mais c'est pas ce que je voulais dire. Je voulais juste revenir sur les rapports au pouvoir et sur tout ça. Je pense que ce qui était intéressant aussi à la ZAD et qui continue quand même, même si j'ai mis un bémol tout à l'heure par rapport par exemple à la route des chicanes, c'est leur mode de prise de décision. C'est-à-dire qu'ils ont réussi pendant toutes ces années-là, surtout depuis que le projet a redémarré, donc depuis qu'ils l'ont ressorti des cartons, à faire avec une horizontalité. Pas parfaite, mais très étendue. C'est-à-dire qu'il y avait des réunions d'habitants, des réunions de zadistes, et que ces deux se réunissaient ensuite, après, de façon conjointe. Donc il y avait ils évitaient quand même la personnalisation, c'est-à-dire de la représentation de cette lutte, et puis il y avait une prise de décision la plus collective, la plus largement collective possible. Je crois que ça les a servis, et si ça continue dans cet esprit-là, ça c'est à mon avis, un mode de gouvernance qui était intéressant, qu'on n'a pas toujours connu partout. Parler de l'IP, ça, effectivement, l'IP l'a fait, mais depuis, beaucoup de luttes n'ont pas su faire ça. Je crois que c'est une des forces de la ZAD, ça a été ça aussi.
Désolé, mais ça me fait penser à ce que j'entends, à une expérience qui a été, je pense, moi, magique. Bon, j'y ai participé un tout petit peu. C'est aux expériences des Nuits debout, qui étaient un peu dans l'esprit, peu importe qui tu es, mais on discute de différents thèmes, avec une petite organisation de discussion par thème pour réinventer le monde. J'ai trouvé ça magnifique et ça mériterait d'être poursuivi de différentes sortes. On sent bien qu'il doit y avoir quelque chose un besoin qui s'exprime ou qui ne s'exprime pas. Mais qui ne s'exprime pas suffisamment, c'est sûr, mais qui est peut-être en train, là, latent, en train de monter en puissance. Et les gens ont besoin. On sait bien qu'il y a quelque chose, des nouveaux modes à trouver, une nouvelle façon de travailler, de réfléchir avec les autres et de reconstruire quelque chose. Et là, c'est latent, c'est en train de monter en puissance. Et Nuit debout, je pense que ça y ressemblait beaucoup.
C'était un reportage de Luc pour Micro Rebelle, Web Radio du Bassin Minier.